Dear young people, this is the last morning service.
Chers jeunes gens, c'est le dernier culte du matin. Nous avons déjà prié. Alors nous allons continuer avec la parole de Dieu. Le thème de ces réunions a été combat, le bon combat de la foi. Ce qui m'est venu alors que je préparais pour cette réunion, c'est que le combat de la foi peut venir de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Il peut venir d'une façon complètement différente que ce que toi ou moi pourrais avoir imaginé. Et j'ai pensé, alors que nous allons continuer notre vie à partir de demain, que nous ouvrions nos yeux à ce qui va peut-être nous attendre après ces réunions. Qu'on ne se fasse pas attraper dans les pièges du diable. Nous avons expérimenté quelque chose de vraiment exceptionnel, inhabituel. Une épidémie qui a couvert le monde entier. Qui est causée par un microbe qui est le plus infectieux, qui se répand le plus facilement de pratiquement tous les virus que l'on connaît. Peut-être, ils disent, il y avait en 1912 une grippe qui a touché le monde d'une façon assez similaire. La grippe espagnole. Mais à part celle-là, il semble que rien n'a jamais été connu de similaire. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a jamais mis le monde dans une situation si étrange où tout est à l'envers. Sens dessus-dessous. Nous en avons entendu parler ces derniers jours. Un des exemples était à l'époque de Noé, quand Dieu a détruit la terre et il a sauvé juste Noé et sa famille. Mais je veux considérer des situations similaires dans la Bible. Et considérer des enfants de Dieu et voir comment eux, ils ont combattu le bon combat dans ces conditions. Parce que c'est une situation inhabituelle, alors le combat que tu dois combattre, il est peut-être caché, il est peut-être pas visible ou camouflé, si caché que le chrétien ne réalise même pas où est le combat. Ne sois pas surpris si des choses comme cela vont se passer dans ta vie encore. Dieu est comme cela. Si tu attends quelque chose, si tu l'attends de l'est, alors tu peux être sûr qu'il pourra venir, qu'il va venir de l'ouest. Si tu attends qu'il arrive du nord, tu peux être sûr qu'il peut venir, qu'il va venir du sud. Et nous devons trouver et réaliser où est la bataille et comment on doit se comporter dans ces conditions pour être victorieux, comme David l'a été, comme Timothée l'a été. Mes amis, rappelle-toi que quoi qu'il se passe dans le monde, Dieu est au contrôle de tout cela. Il contrôle la situation. Même s'il semble que tout part dans tous les sens, Dieu contrôle tout cela. Les gens peuvent faire des stratégies, essayer de prendre les choses en main. Il pourrait essayer de calculer jusqu'au plus petit détail comment ils vont conquérir le monde. Dieu peut permettre un tout petit germe, un tout petit virus, si petit qu'on ne peut même pas le voir avec nos yeux, et il peut laisser ça s'échapper. Et ce petit virus tourne tous les plans de la planète sens dessus-dessous. C'est comme si Dieu avait juste levé son petit doigt. Et aucun des plans et des prévisions du monde ne tient debout. Même si prévoir un désastre de cette amplitude peut faire partie des plans des grands de ce monde, beaucoup de rois ont créé des désastres, des gouvernements dans ce monde ont créé des désastres. Et à part ces désastres, ils planifient de conquérir. Donc ça peut être qu'un gros désastre arrive, mais Dieu l'a permis. Il a son grand plan dans tout cela. Lisons ensemble dans le deuxième psaume, chapitre 1. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Écoutez bien cela maintenant. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa grande colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je pense que nous allons lire jusque-là. Mes amis, Dieu a souvent créé des situations qui paraissent comme des désastres pour ses enfants. Et quand Dieu te jette, si on peut dire, dans ce désastre, tu peux être tenté de paniquer. De perdre ton espoir. De lever les bras en l'air. D'arrêter de servir Dieu. Et de dire, oh là là, tout est dans tous les sens. Dieu ne sait plus ce qu'il fait. Il n'est plus en contrôle de la situation. Mais à travers les années, nous avons vu comment Dieu utilise ces crises pour appliquer sa volonté, pour mettre en œuvre sa volonté. Cela s'est passé dans le temps de la naissance de Jésus, quand César Auguste, le grand et puissant empereur de Rome, de l'Empire romain, a donné un décret à travers le monde entier, le monde connu, à travers l'Empire romain, disant que tous les endroits qui étaient conquis par l'Empire romain devaient venir et s'enregistrer à l'endroit de leur naissance. Et il y avait ce petit charpentier insignifiant avec sa femme. Qui était-il? Il n'était même pas un petit point sur cette terre. Il n'avait aucune influence politique. Et le décret n'aurait pas pu arriver à un temps pire pour eux. Parce que sa femme attendait un bébé, elle était sur le point d'enfanter son premier enfant. Tu peux demander à n'importe quel docteur. Le premier enfant, c'est la délivrance la plus difficile et dangereuse pour une femme. Parce que tu ne sais pas si l'enfant va être né de façon avec succès. Tu ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut-être ne va pas dans le corps de la femme, qui fera que la naissance ne se passera pas bien. Le premier enfant, normalement, la naissance se passe à l'hôpital, Après, peut-être à la maison, mais pas pour le premier enfant. Et il a dû emmener sa femme sur un âne. Et les bosses sur la route, à dos d'âne, ont dû rendre les choses encore pires. Cela peut causer des détriments à l'enfant. Il peut avoir des ruptures à l'intérieur. Elle aurait pu commencer à saigner à l'intérieur. C'est une recette idéale pour un désastre. Et là, alors il y avait cet empire romain puissant. Et la Judée était une petite province parmi tous les pays qu'ils avaient conquis. Ils ont obéi, ils ont voyagé dans le pays, parce que qui était-il pour combattre contre l'Empire romain? Est-ce que toi, tu dirais qu'un homme qui voyage avec sa femme sur un âne, sur le point d'accoucher, c'est un soldat qui combat le bon combat? Il n'a pas d'épée. Il n'a pas de bouclier. Il n'y a aucun ennemi qu'il est en train de combattre, que tu peux voir. Mais je te dis, Joseph et Marie combattaient le bon combat de la foi. Dans ces situations quasi impossible d'aller jusqu'à Bethléem, pas de logement, aucun endroit où dormir. Ils se sont retrouvés dans une étable avec des vaches. Est-ce que tu réalises comme c'est dangereux? L'ancien temps, beaucoup de femmes de la nation Zoulou donnaient naissance dans des étables. Et j'ai soigné ces enfants quand ils sont devenus malades. Parce que vous réalisez que dans les bouses de vaches, il y a des impuretés terribles. Et que l'enfant peut entrer en contact avec ces microbes et il attrape le tétanos. Ils emmènent l'enfant vers toi. Et l'enfant se redresse et penche la tête en arrière. Il ne peut pas ouvrir la bouche. Il ne peut pas boire. Tous ses muscles se tendent. Parce que les muscles du dos tirent tellement fort. Je les ai vus mourir comme des mouches, ces enfants. Tu essaies tous les médicaments que tu trouves, tu les mets sous ventilateur, tu fais tout ce que tu peux, l'enfant meurt. Certains même mettent de la bouse de vache, ils la frottent sur le cordon ombilical. Une étable et un des endroits les pires pour aller donner naissance à un bébé. Et pourtant, il combattait le bon combat de la foi. Parce que ça, c'était le chemin de Dieu. Pour être sûr que son Messie soit né à Bethléem. En accord avec les prophéties qui disaient que le Messie naîtrait à Bethléem. Tu penses que Dieu a perdu les rênes? Dieu a entendu ce que César Auguste avait dit. Et il s'est ri dans le ciel. Et il a dit, « Qu'est-ce que tu essayes de faire contre moi et mon oin ?» Personne ne touchera celui que j'ai oint jusqu'à ce qu'il ait fini son travail sur la terre, jusqu'à ce qu'il soit pendu sur la croix, qu'il ait souffert, qu'il ait saigné, qu'il ait donné son sang et qu'il soit mort pour tous les pécheurs de ce monde. Dieu a mis chaque homme qui est mort, qui est né sur cette terre en position d'échec. Quand tu mets ton roi dans un coin aux échecs, le roi de ton opposé, de ton adversaire dans un coin, alors tu dis échec et mat. Dieu a mis chaque homme dans un coin où il n'a plus d'excuses pour aller en enfer. Que tu sois un pécheur, que tu sois un collecteur de dettes, que tu sois un ivrogne, Dieu nous a donné un exemple comme Matthieu, quand Jésus l'a appelé. Il a laissé ses tables et ses calculs et son argent et il a suivi Jésus. Il n'y a pas d'excuse pour toi pour ne pas amener tes péchés à Dieu. Si tu dis non, je suis un pharisien. Écoute comment le Seigneur a parlé aux pharisiens. Il les a appelés race de vipères. Il leur a dit les pires choses que tu peux imaginer. Tu peux venir et dire, oh, je suis un pharisien, il n'y a aucun espoir pour moi. Et le Seigneur va dire, regarde, Jaïrus, un pharisien qui est venu vers moi dans la nuit et je l'ai sauvé de ses péchés. Il y a Paul, un pharisien parmi les pharisiens. Dieu a pu aussi le laver avec son sang. Tu peux dire, Seigneur, mais je suis une prostituée. Et Dieu va te dire, regarde Marie, Seigneur, j'ai des démons. Et le Seigneur te dit, regarde cette femme qui avait 7 ou 9 démons. Viens à moi. Je peux te laver. Je peux te rendre pur de tous ces péchés. Ne laisse pas le diable te donner des excuses comme quoi tu ne peux pas être sauvé aujourd'hui. Le Seigneur et son oint a préparé un chemin pour chaque âme sur cette terre, pour qu'elle puisse être sauvée si elle le veut. Et toi qui écoutes, ça ne m'intéresse pas ce que tu as fait dans le passé. Regarde le criminel qui était sur la croix. Il a dit, « Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu vas dans ton paradis. » Le Seigneur n'a pas perdu de temps. Il lui a dit, « Maintenant, aujourd'hui, je te lave avec mon sang. » Aujourd'hui, je te lave de tous tes péchés puants. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Jeune personne, jeune gens, combien de réunions est-ce que tu dois entendre avant que tu réalises que le Seigneur peut te laver de tous tes péchés? Oh, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ils vont dire, oh, regarde, quel bazar tu as fait de ta vie. Je ne peux pas revenir à la mission Kwasi Zabantu. Ils vont juste dire, oh, regarde, dans quel état est ta vie? Mes amis, ton âme est en jeu. Tu vas perdre ton âme pour l'éternité. Sauf si tu peux faire laver ton âme dans le sang de Jésus et que tu puisses être changé. Dieu a utilisé cette histoire d'enregistrement de l'Empire romain pour son but divin. Cela faisait tout partie de son plan. Il voulait que son Messie aille à Bethléem et qu'il soit né là-bas pour accomplir la prophétie qui avait été donnée dans sa parole des centaines d'années avant. Mais est-ce que tu réalises, Marie et Joseph combattaient le bon combat de la foi. Ils se sont accrochés à la promesse que Dieu leur avait donnée par rapport à cet enfant à naître. Ils s'y sont attachés, accrochés avec de toute leur force à cette promesse. Ils n'ont pas essayé de combattre les Romains, mais ils combattaient le bon combat de la foi. Dis-moi, jeune personne, est-ce que le diable ne t'a pas changé et tourné l'esprit? Et que tu as ton focus sur les mauvaises choses, sur les Romains par exemple, que tu essayes de combattre. Peut-être même tu les hais, les Romains. Les Romains sont arrivés en Judée, ils ont pris le pays de force. « Joseph n'a pas attrapé son épée pour aller combattre. Il aurait raté le but. Il n'aurait pas été là où Dieu était en train d'agir. Deuxième exemple. Il faut que je me dépêche maintenant. Je vais juste mentionner quelques points. Daniel. Apparemment, ils avaient perdu la guerre. Il a été emmené captif à Babylone. Sa nation a été conquise. Il était pourtant de sang noble, de lignée royale. Mais pourtant, Daniel n'est pas allé combattre contre les Babyloniens. Oui, je pense qu'il a peut-être combattu quand il y avait la guerre, mais une fois qu'il avait perdu, ils avaient perdu. Mais Daniel a combattu le bon combat de la foi. Parce que dans cette crise, le diable avait son plan. Et Dieu a son plan. Rappelle-toi, si tu arrives à une période de crise, si tu arrives à la période de crise du COVID-19, la crise du coronavirus, rappelle-toi que le diable veut utiliser cette crise pour son but. Et Dieu veut utiliser cette crise pour son but. Et là, on voit Daniel était captif à Babylone. Et où est-ce qu'il a combattu sa bataille? Quand on lui a amené à manger. De la nourriture qui était sacrifiée pour les idoles. Et Daniel a dit non. Plutôt mourir. Dis-moi, mon ami. Est-ce que tu n'as pas mangé de la nourriture sacrifiée aux idoles? Pas au Dieu saint. Le Dieu saint, vivant, ne demande pas des sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Des sacrifices d'animaux? Non. Le sacrifice que le Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit veut, c'est ta vie. Tu dois sacrifier ta vie pour lui. Daniel a dit, je ne mangerai pas la viande qui était sacrifiée aux idoles. Oui, mais tu as besoin de viande pour grandir, pour être fort. Il a combattu le combat de la foi. Il a dit, Dieu me rendra fort même si je ne mange que des légumes. Tu sais ce qui était la bataille de Daniel? De ne pas pécher. Il était captif. Et Daniel lui a dit, « Daniel, reste pur, reste droit, tu n'as pas le droit de pécher. » Mon ami, peu importe combien de choses se sont mal passées pour toi, peu importe combien ton orgueil a été blessé, sûrement que l'orgueil de Daniel a été écrasé en étant conquis par les Babyloniens. Mais quoi que tu fasses, fuis le péché. Ne pêche pas. Ne donne pas de place au péché dans ta vie. Ne laisse pas Dieu et le diable te donner l'attention, te montrer les différences entre les races. Tu sais ce qui va amener la malédiction de Dieu sur ta vie? C'est pas parce que ce que cette race t'a fait, c'est ton péché, ta colère. Combien de colère n'as-tu pas laissé dans ta vie? Regarde ce qui se passe avec cette épidémie de COVID. Certaines personnes perdent la tête. Ils commencent à croire aux histoires les plus ridicules. Ils deviennent en colère et ça commence à bouillir. Il faut qu'on punisse quelqu'un, il faut qu'on fasse quelque chose à cause de tout ce qui nous arrive. Et plus la colère grandit dans ton âme, plus grand la malédiction de Dieu sera sur ta vie. C'est notre péché qui nous rend malades. C'est notre immoralité. C'est pas juste un amusement innocent pour des jeunes gens de coucher ensemble. Si tu couches avec une femme sans que tu sois marié avec elle, tu fais descendre la malédiction de Dieu sur ta vie, sauf si le sang de Dieu, de Jésus, te purifie de cela. La jalousie, les passions qui te font bouillir à l'intérieur, l'envie. Rarement on ne parle de l'envie dans l'Église. La convoitise. La Bible dit, tu ne devrais pas convoiter les affaires de ton voisin, sa femme, ou son mari, ou son âne, ou quoi que ce soit qui appartient à ton voisin, à ton prochain. Si tu commences à convoiter tu appelles la malédiction de Dieu sur ta vie. Et on vit dans des temps où les gens sont encouragés par les politiciens à être jaloux et à envier les affaires de chacun autour de toi. Tu n'es pas un Daniel. Tu échoues de combattre le bon combat de la foi. Tu penses comme le monde. Tu penses comme un politicien. Tu ne penses pas comment Dieu pense, comment Dieu voit la situation. Et plus tu haïs, plus tu deviendras malheureux et moins tu auras de prospérité dans ta vie, dans ton pays. Mon dernier exemple, Ruth. Nous lisons cela dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 22. Je veux lire l'histoire d'une jeune fille qui a combattu le bon combat de la foi. Verset 21. Non, Ruth 1, verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Mes amis, l'appel de Dieu sur ta vie, oublie ce que j'ai dit dans le passé. Je parle de quelque chose d'autre maintenant. L'appel de Dieu dans ta vie peut venir d'une façon que tu ne réalises pas qu'il y a un appel de Dieu dans ta vie. Une famine est arrivée dans toute la région. Naomi et ses deux fils s'étaient déplacés dans un pays étranger à Moab. Et donc ces deux fils étaient mariés à des filles moabites. L'une était Ruth et l'autre était Orpa. Ensuite, son mari est mort. Le mari de Naomi. Et ensuite, ses fils qui sont décédés. Et alors, elle restait dans un pays étranger avec ses deux belles filles. Mais regarde ce qui se passe pour Ruth. Elle s'est mariée, elle était mariée à un Israélite. Maintenant, son mari est mort. Elle a perdu son mari. Pourquoi ne pas aller alors se marier avec un autre homme moabite qui est de sa culture? Tu sais quel était le secret de Ruth? Elle n'a pas considéré que Naomi, sa belle-mère, soit d'une autre nation. ce qui est le plus important pour elle, c'était que Naomi marchait avec Dieu. Chers enfants, jeunes gens, accroche-toi aux personnes plus âgées qui marchent avec Dieu. Peut-être que tu parais comme rien du tout, mais accroche-toi à ces personnes qui servent Dieu. Alors elle est partie avec sa belle-mère, Naomi, jusqu'en Israël. Est-ce que tu sais combien les Israélites méprisaient les Moabites? Les Moabites étaient les descendants de Lot. Lot, qui était le neveu d'Abraham. Et nous savons que représente Abraham pour la nation juive. Il est le père des croyants. Lot n'est pas resté avec Abraham, avec son père, si on peut dire. Il ne s'est pas accroché à un homme de Dieu. Il est parti s'installer à la proximité de Sodome et Gomorre. Et alors quand Dieu les a détruites, ces villes, Lot et ses deux filles ont pu s'enfuir. Et ils ont fini par vivre dans les montagnes. Et les deux filles ont commencé à réfléchir. Comment on pourra jamais trouver un mari en restant dans des caves par ici? Tu vois comment tu peux perdre le combat de la foi quand tu commences d'utiliser ton cerveau. Donc elles ont enivré leur père. Et elles ont couché avec lui. Et elles ont eu deux enfants. Et l'un d'entre eux était appelé Moab. Et l'autre était appelé Ammon. Moab est devenu le père de la nation moabite. Et Ammon est devenu le père de leur nation ammonite, des ammonites. Et Israël les méprisait. Parce que la façon dont ces nations ont commencé était honteuse. Alors, est-ce que tu peux imaginer qu'est-ce qui a pu arriver à Ruth quand elle est arrivée en Israël? Tu peux imaginer comment les Israélites l'appelaient? Comment ils se moquaient d'elle? Toi, la Moabite. Ton grand-père, c'était Lot. L'histoire de ta nation, c'est vraiment honteux. Parce qu'il y a des gens dans des pays qui peuvent te dire des choses comme ça. Elle n'avait plus à manger. Elle était humiliée. Elle devait aller dans les champs le soir à ramasser ce qui restait après la moisson. elle n'était rien du tout. Mais Ruth a combattu le bon combat de la foi. Elle est restée accrochée à Naomi. Ce n'était pas la guerre. C'était une situation humiliante. Mais non seulement elle a été sauvée par cela. Écoutez cela. Sans le savoir, un appel de Dieu est venu sur sa vie. Dans cette situation si humiliante, rien à manger, dans un pays étranger qui te méprise, Dieu a dit, je t'ai oint pour être un ancêtre du Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Reste fidèle. Tu ne peux pas imaginer l'onction que Dieu peut mettre sur ta vie si tu restes fidèle. À la fin, Ruth s'est mariée avec Boaz. Et tu sais quel était le nom de leur fils ? Il a été appelé Obed. Tu sais quel était le nom de son fils ? Jesse. Et tu connais le nom de son fils, du fils de Jesse ? David. L'ancêtre de notre Seigneur et Sauveur. Tu n'as aucune idée, si tu restes fidèle à Dieu, quel plan et quelle onction il peut mettre sur ta vie. Même si tu passes par une crise et qu'il semble que tu as tout perdu. Garde la foi en Dieu. Ne laisse aucune place au péché. Tu sais ce qui aurait été logique pour Ruth de faire? Son mari est mort. Sa belle-mère dit elle s'en va, elle retourne en Israël. Elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Pas de mari. À l'époque, il n'y avait pas d'assistance sociale. Si ton mari est mort, il va falloir que tu te débrouilles de trouver ta propre nourriture quelque part. Tu sais ce que beaucoup de femmes faisaient? Elles devenaient des prostituées, pas parce qu'elles étaient remplies de passion, mais parce qu'elles avaient besoin de manger, elles avaient besoin de trouver à manger. Ça, c'est la bataille que nous devons combattre. Une bataille où on s'accroche à Dieu et on garde la foi et on reste proche des enfants de Dieu. Et nous sommes privilégiés. Combien privilégiés sommes-nous? Qu'à cet endroit où nous sommes ici, à Kouassi Zaventou, Nous avons des enfants de Dieu qui ont été fidèles toutes ces années. À qui nous pouvons nous accrocher, avec qui nous pouvons être unis. L'onction de Dieu était sur Ruth. Elle a tout perdu. Elle a perdu sa nation. Elle a perdu le monde qu'elle connaissait. Elle a perdu tous ses amis mondains. Est-ce que tu as peur, toi, de perdre tes amis mondains? Elle a perdu sa culture, la culture de sa nation. Elle a perdu sa langue. Est-ce que tu parles encore, toi, la langue du monde? Ce langage sale du monde? Elle a perdu ses possessions. Elle a perdu la maison où elle habitait avec son mari. Et elle est retournée en Israël, ne sachant pas où elle allait habiter ou qui prendrait soin d'elle. Et Dieu a choisi un mari pour elle. Toi, jeune personne, tu veux choisir ton mari? Et tu as tiré les bonnes ficelles et tu as bien organisé la bonne famille avec le bon titre et ça rentre bien dans toutes tes pensées et tes plans avec les bonnes connexions. Et je me marierai avec l'homme que je veux, avec le travail qui me convient, avec le statut qui me convient. Tu n'as aucune idée où tu te tiens avec Dieu. Dieu a donné à Ruth un mari. Pas sa propre tête, son cerveau. Toi, enfant de Dieu, qui est tombé dans les habitudes mondaines, qui fait les choses de la façon dont le monde le fait, en utilisant ta propre connaissance et ta propre compréhension. Tu as perdu Dieu. Tu m'entends? Tu as perdu Dieu. Tu es sur ta propre planète. Tu n'as aucune idée où tu vas et d'où tu viens. Voilà comment on reste fidèle à la bataille de la foi. Toi, tu choisis le travail que tu veux. Tu ne vas pas à genoux et demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je ne veux pas choisir ce que moi je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Non, ce langage étrange, ce n'est pas pour toi. Mais écoute-moi maintenant, écoute ce que je te dis. Même si tu es tombé dans le péché, que tu es retourné en arrière, ce que j'ai dit au début, Dieu a aussi un chemin pour que toi, tu puisses être sauvé. Et il a mis l'exemple de David devant toi. un homme qui est tombé dans le péché. Et pourtant, il s'est relevé, il s'est retourné, il s'est détourné, il s'est repenti. Il a confessé son péché et il a reçu le pardon. Ne dis pas « Dieu a fermé la porte pour moi. Je suis trop loin. » Jamais. Mille fois, je le répéterai, jamais. La porte est encore ouverte pour toi. Il y a un chant qui dit « Là où il me conduit, je le suivrai. » Je voulais encore parler de Paul et d'autres personnes, mais à cause du temps, je vais m'arrêter. Nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions pour tes paroles précieuses. Fais-nous grâce. Que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Amen.